Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, l'art de vivre au Japon. Sans tomber dans les clichés, les relations sociales dans ce pays sont régies par des codes parfois assez déroutants. Pourquoi on offre tout le temps des cadeaux en les dévalorisant? Pourquoi la floraison des cerisiers est attendue chaque année comme si c'était le moment ou jamais? Ou encore comment apprivoiser le vide, cultiver l'art du nettoyage ou respirer la forêt? Autant de singularités régies par quatre grands piliers de la sagesse nippone. L'occasion pour vous, les voisins et les voisines, de poser toutes vos questions à nos invités aujourd'hui sur le savoir-vivre au Japon. Surtout si ça vous intrigue ou si ça vous fascine, appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités dans le studio des 7 milliards de voisins à Paris, à RFI. Jun Fujiwara, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes japonaise. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes japonaise, née à Tokyo, installée depuis 20 ans en France. Oui. Et vous venez de publier en français, ce qui est quand même une prouesse, Les secrets du savoir-vivre nippon aux éditions de L'Opportun. Votre livre n'est ni exhaustif ni académique, hein, c'est ce que vous précisez en préambule. Mais en tout cas, il a le mérite de se mettre à la portée de la culture française rationnelle et c'est déjà pas mal. Également avec nous en ligne, Raphaël Languillon-Haussel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, spécialiste du Japon à l'Institut français de recherche sur le Japon de la Maison franco-japonaise à Tokyo. Vous avez publié Les Japonais en 2018 aux éditions Atelier Henri Dougier. Et là, vous êtes en direct d'Osaka, troisième ou deuxième ville du Japon d'ailleurs?
Alors, normalement, troisième après Yokohama.
Et vous êtes actuellement à Osaka où il est un peu plus de 19h. Merci d'être en ligne avec nous. Et puis nous serons aussi tout à l'heure en ligne avec le regard critique de Constantin Simon, correspondant à Tokyo pour France 24. Et je vous rappelle notre numéro de compte WhatsApp sur lequel vous pouvez nous appeler en direct pour poser vos questions ou témoigner si vous avez une connaissance de la culture nippone. 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et je crois qu'aujourd'hui j'ai découvert que j'avais plein de voisins.
Et on est en ligne, en direct, avec un voisin sénégalais de Ziguinchor, installé au Japon depuis 7 ans. Bonjour Mara Mané.
Bonjour, Mgr Bansi.
On est ravis de vous accueillir. Vous êtes à Tokyo, vous êtes salarié d'une entreprise depuis 3 ans, mais en fait vous vivez au Japon depuis 7 ans, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Mm-hmm. Et vous n'avez pas oublié le français?
Ah non, non, j'ai pas encore oublié la langue de Molière.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire? J'imagine que, étant sénégalais installé au Japon, forcément, vous avez dû commettre des faux pas, des erreurs dans ce dédale du savoir-vivre japonais qui nous est à dire que nous soyons occidentaux ou africains.
Oui, effectivement, tout être humain a toujours commis des erreurs dans le passé ou dans le présent. Ben, en tant que quand j'ai été première fois à Tokyo, je suis venu en 2014. J'avais commis qu'une seule infraction, c'était d'inaugurer mon vélo à côté d'une petite boutique. C'est là où la police avait récupéré un peu mon vélo et puis après ils m'ont restitué. Vu que je suis nouveau, je ne connaissais pas les codes de conduite de la société japonaise, mais tout est rentré dans l'ordre ce jour-ci.
Et vous avez été étudiant également à l'université?
Oui, j'ai été à l'université de Soka. J'ai étudié là-bas l'étude asiatique, Japan Asian Studies. C'est là où j'avais été gradué avant de joindre les compagnies japonaises.
Et vous avez effectivement appris combien pouvaient coûter les absences au cours?
Oui, les absences au cours, c'est terrible hein, parce que les retards comme les absences égales, sont les mêmes choses. Hein, parce que l'absence, deux absences, vous perdez votre crédit de cette matière-là, de cette matière. Donc, du coup, les retards aussi, c'est plus grave que d'être absenté. Mmh. Donc, les Japonais sont ponctuels. Ils respectent les timings. Donc, ici, quand vous êtes un étranger, vous êtes invité à s'accommoder aux règles établies par la société japonaise.
Et alors justement, vous en tant que Sénégalais, comment vous vous êtes accommodé? Quels bénéfices en tirez-vous de ces règles si précises?
Oui, parce que vu que la société japonaise est régie par des règles précises où les relations humaines sont encadrées, donc en tant qu'intellectuel, je me suis accommodé, je me suis adapté à cette société parce que j'ai appris les codes de conduite de cette société et les règles établies par la société japonaise. J'ai pu bénéficier beaucoup d'expériences sur les relations humaines, le respect, la modestie, la propreté et la ponctualité, et le respect de l'autrui. Ce sont les vrais fondements du savoir-vivre au Japon.
Eh bien voilà, des fondamentaux qu'on va bien sûr explorer tout au long de l'émission. Maramané, je me fais le porte-parole des auditeurs africains qui nous écoutent, hein, qui vous imaginent depuis 7 ans au Japon, donc en plein cœur de l'Asie. Est-ce que vous avez subi le racisme ou est-ce que vous le subissez? Est-ce que vous sentez un regard sur ce que vous êtes, vous, en tant qu'Africain?
Le racisme en tant que tel, le mot racisme en tant que tel au Japon, c'est un mot rare dans les vocabulaires des Nippons. On a vécu au Japon beaucoup d'années ici, mais le racisme qu'on sent en Europe, le racisme qu'on sent aux États-Unis et le racisme qu'on sent au niveau de la Chine est quasiment inexistant au niveau du Japon. Parce que nous vivons dans une société comme dans une même famille. Même s'il y a des petits problèmes internes, on comprend, mais le racisme en tant que tel au Japon est caché. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut apprendre d'abord cette société, connaître les codes et les conduites pour pouvoir déceler tous les petits cas qu'on appelle de racisme. Mais en tant que tel, le racisme, de manière générale, n'existe pas au Japon.
Pas apparent à première vue. Il est vrai aussi que c'est un pays qui a peu d'immigration. Merci en tout cas, Maramané, de nous avoir appelé en direct de Tokyo. Vous êtes bien à Tokyo aujourd'hui?
Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis à Tokyo.
Merci à vous de nous avoir appelé. Merci. Très bonne journée à vous, Maramané, Sénégalais, de Ziguinchor de Casamance, installé depuis 7 ans au Japon. Jun Fujiwara, Raphaël Languillon au sel. Peut-être racontez-nous d'abord, Jun Fujiwara, comment votre passion pour la France vous a permis de comprendre que vous étiez avant tout japonaise et de mieux comprendre votre pays en étant loin. Est-ce que vous avez retrouvé, par rapport à ce que nous racontait cet auditeur, est-ce que vous retrouvez finalement les fondamentaux?
Alors, moi, je suis venue en France il y a plus de 20 ans parce que j'adorais la France. La langue française, c'était ma passion. Donc, c'était pas pour fuir le pays, mais c'était par l'attrait pour l'art de vivre à la française que j'ai pris le premier avion pour Paris, finalement. Et ça fait 20 ans que j'ai travaillé dans une entreprise française. J'étais intégrée à la France, assimilée à Paris. Parfois, je me sentais plus française que japonaise, parfois plus parisienne que tokyoïte. Mais je recevais parfois cette question de la part de mes collègues français et qui m'intriguait. Et cette question, c'était « Mais comment fais-tu pour rester si zen ?» Et au début, je ne comprenais pas parce que le mot « rester zen » n'existe pas en tant que tel au Japon. Donc, mais comme on me pose souvent la question, j'ai commencé à analyser, à creuser un peu. Et j'ai compris en fait que c'est mon attitude, mon état d'esprit, mes réflexes, ce que j'appelle la japonitude en fait, qui intriguait mes collègues et qui laissait insinuer en fait une alternative peut-être pour mieux gérer le stress, l'angoisse, l'incertitude, la culpabilité, tous ces sentiments néfastes qu'on peut rencontrer au quotidien. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que j'étais restée japonaise. Et pour moi, c'était une découverte, parce que je ne le pensais pas, ce n'était pas évident pour moi, c'était une évidence pour mon entourage. Et c'est là où j'ai eu envie de parler du savoir-vivre japonais qui dictait ma japonitude. parce que ce qui était évident pour moi ne l'était pas pour les autres. Et j'avais envie de le partager, en fait.
Ouais, votre façon de garder le contrôle, finalement, de vous-même, y compris dans l'adversité. Raphaël Languillon-Aucel, qu'est-ce que la pandémie a montré des singularités de ce pays dans sa façon, par exemple, de ne pas imposer de confinement, notamment ?
La pandémie a révélé des choses, je pense, très significatives de ce qu'est le Japon actuellement, autant en bien qu'en moins bien. Dans les caractéristiques très positives, cette attention à l'autre, cette capacité à devancer, on peut dire par exemple proactif, à devancer un certain nombre de consignes de façon spontanée, a permis effectivement de ralentir la progression de la pandémie. Et puis, il y a les aspects un peu plus difficiles à vivre au niveau individuel, où par exemple, toujours dans cet esprit de prendre soin des autres et d'être proactif dans les décisions individuelles, un certain nombre d'habitants et d'habitantes des grandes métropoles, en particulier de Tokyo, n'ont pas osé rentrer dans leur famille en province pour éviter les effets de contagion, y compris dans les périodes de fêtes, ce qui a, de façon contradictoire, accentué des effets de solitude à un moment où on avait besoin de sa famille et où on avait besoin de ses proches pour encaisser le choc psychologique de la pandémie. Et donc, créer une forme de mal-être qui est proportionnellement inverse à la l'attitude déférente que l'on a à l'égard des autres. Et donc, c'est vrai que cette pandémie, elle a des côtés positifs dans les facteurs individuels. Elle accroît aussi la pression sur les individus.
Jun Fujiwara, la façon de cette retenue, l'auto-limitation des Japonais pendant la pandémie, tout ça, c'est à relier avec un concept assez général de quête de l'harmonie, du souci des autres, du collectif qui prime sur l'individu.
Alors, au Japon, les valeurs qui régissent la société japonaise, c'est pas la liberté en premier, comme en France. Le bonheur individuel, la liberté personnelle, l'épanouissement personnel, ça passe en quelque sorte après le bien-être collectif. Parce que on est dans le collectif et la pandémie nous a montré justement que le bien-être collectif ne fonctionne pas, il n'y a absolument pas de bonheur ni quiétude personnelle. Et le mot l'harmonie, wa en japonais, c'est un peu le ciment et le moteur de la société japonaise. C'est l'harmonie qui prime avant tout. Et ça vaut dans toutes les relations sociales, que ce soit de niveau individuel ou niveau sociétal.
Ça veut dire que des Français qui se ruent sur les supermarchés pour les dévaliser, comme on l'a vu au tout début du premier confinement, ça aurait été impensable au Japon.
Il y a eu aussi ce moment de panique au Japon. Je pense qu'on est tous humains, ça arrive. Mais par exemple, au Japon, c'est rare de dire « moi, je ». On n'a pas l'habitude de dire « je pense que ». On n'est pas dans le débat, affirmation de soi. On va d'abord penser à ce que l'autre va penser. On va peser le regard des autres avant d'exprimer son opinion. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opinion ou d'envie personnelle. Mais ce regard des autres, ce vivre ensemble, est extrêmement important, ce qui explique les comportements dont parlait Raphaël pendant la pandémie. On ne va pas réagir parce qu'on va d'abord penser à ce que les voisins vont penser de nous.
Vous racontez une anecdote assez significative. Un Japonais invité chez un collègue français pour dîner. Son hôte lui demande ce qu'il aimerait boire en apéritif et il répond « je ne sais pas ».
Oui, c'est mon histoire préféré parce que ça symbolise un peu, ça raconte bien pourquoi cette attitude. Alors, donc ce Japonais qui est invité chez le Français, il arrive en premier. Et bien sûr, il veut peut-être boire une bière fraîche, mais il n'ose pas le dire parce qu'il se dit « je ne sais pas si les autres vont prendre une coupe de champagne ou un apéritif spécial ». Et les autres ne sont pas là, donc il ne peut pas suivre l'exemple du groupe ou de la communauté. Parce que pour lui, ce qui importe, c'est l'harmonie du groupe, ce n'est pas sa propre envie de boire de la bière. Donc il va répondre « je ne sais pas ». Et le Français va conclure qu'il est timide ou qu'il n'a pas d'avis, ce qui n'est pas le cas.
Une question de Christopher, un de nos auditeurs qui est à Port-au-Prince en Haïti. Comment les Japonais, même en colère, parviennent-ils à maintenir un niveau de politesse dans leur langage ?
On a tout un art de communiquer au Japon, ce qui paraît évident pour les Japonais. Mais en fait, j'ai compris que ça ne l'est pas. Donc, pour montrer un exemple, pour préserver l'harmonie, si par exemple, Emmanuel, vous me dites « June, votre livre est extraordinaire ». Ici, je vais dire « Ah, merci beaucoup ». Et si je suis parisienne, je vais même dire « Est-ce que vous voulez une dédicace ?» Et d'ailleurs, vous pouvez en acheter plusieurs pour des cadeaux de Noël. Au Japon, si on me dit « June, votre livre est extraordinaire », je vais dire « Ah mais non, c'est que des gribouillis insignifiants, j'en ai presque honte ». Et si mon interlocuteur persiste pour dire « Bravo », je vais dire « Merci, c'est grâce à vous ». Même s'il a strictement rien eu avec mon exploit d'écrire un livre.
Mais alors moi, c'est je me dirais pourquoi elle se dévalorise.
C'est pas pour me dévaloriser ni pour m'humilier. C'est pour ne pas mettre mon interlocuteur dans l'embarras. C'est pour qu'il se sente pas inférieur par rapport à moi. Donc c'est toujours la pensée à l'autre avant de penser à soi. Et ça, c'est une manière de communiquer qui est très commune. Tout le monde le pratique, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ça a l'effet d'atténuer les tensions inutiles dans la société ou en communauté.
Ouais. Et dans le même ordre d'idée, vous racontez dans votre livre, on se fait tout le temps des cadeaux au Japon pour n'importe quelle occasion. Et en remettant un cadeau à quelqu'un d'autre, même si on l'a soigneusement choisi, il est d'usage de dire « c'est un cadeau sans aucun intérêt ».
Insignifiant.
C'est ça. Ou bien « j'ai honte de vous présenter ceci », il va sans dire qu'on n'en pense pas un mot.
Exactement. Quand on offre un cadeau, et on offre des cadeaux tout le temps, d'ailleurs, si on offre un cadeau, on va vous remettre un cadeau pour vous remercier du cadeau. Donc c'est un art de vivre, c'est un sport national presque de s'offrir des cadeaux. Et il faut surtout pas dire « j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire ». Il faut dire « mais c'est quelque chose de vraiment insignifiant ».
Raphaël Languillon-Haussel, en quoi le territoire géographique a imprimé finalement cette nécessité de code pour vivre ensemble ?
Alors, je vais peut-être plutôt renverser la question, puisque il n'y a pas de déterminisme géographique. Et souvent, les Japonais, pour expliquer leur comportement individuel et collectif, leur effet culturel, ils vont dire « parce que nous sommes un archipel ». Et c'est ce qu'ils appellent « shimaguni ». Shimaguni, par rapport à leur altitude à l'extérieur et à leur cohésion interne. Et ça, c'est un cas typique de déterminisme géographique, parce que des shimaguni, des pays insulaires, il y en a d'autres, et ils ne sont pas forcément exceptionnels dans le même sens. Donc du coup, il n'y a pas de déterminisme physique aux caractéristiques culturelles. En revanche, les spécificités culturelles du Japon ont produit des effets physiques particuliers. Pour reprendre le cas qu'a évoqué Jun Fujiwara juste avant, cette idée de on va faire attention à l'autre pour ne pas qu'il se sente trop ridicule par rapport à soi ou inférieur. On appelle ça plutôt en fait le décentrement, la capacité à se décentrer, c'est-à-dire à oblitérer le sujet, c'est-à-dire soi-même, et à faire attention à ce qui nous entoure. Au niveau spatial, on le retrouve dans les dynamiques d'aménagement. Par exemple, à Kyoto, il y a le festival qui s'appelle Daimonji, c'est-à-dire les grandes lettres de feu. Et ces grandes lettres de feu, elles sont sur les collines autour de la ville, qui, elles, se trouvent dans une cuvette. Visible, Daimonji, donc les grandes lettres de feu qui sont sur les collines qui entourent la ville, les Japonais de Kyoto ont édicté des règles qui abaissent les bâtiments en centre-ville pour rendre accessible visuellement à tout moment les environs de Kyoto, aux habitants de Kyoto et aux visiteurs. Et ça, c'est typiquement une traduction spatiale du décentrement que Jun Fujiwara a expliqué juste avant et qui a une réalité prescriptible dans le droit de l'urbanisme.
Ouais. Alors on vous donne la parole bien sûr les voisins et les voisines sur vos expériences ou vos questions aussi quant à ce savoir-vivre au Japon. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Écoutez le témoignage de cet auditeur au Bénin.
Bonjour les voisins, je suis Arafat Salami Mohamed, béninois résident à Porto Novo. En 2012, j'ai postulé pour une bourse offerte par le gouvernement japonais. J'ai passé toutes les étapes, brillamment, sélection sur dossier, composition de la langue anglaise et japonaise. Mais j'ai été recalé parce que j'étais en retard à l'entretien. Et j'ai compris ce jour-là que les Japonais ont horreur du retard qu'ils considèrent comme une insulte. Ça, je l'ai compris après, malheureusement.
Voilà. Ou comment apprendre de ses erreurs, hein, finalement, Jun Fujiwara.
Oui, exactement. Je pense que dans la pensée japonaise, apprendre de ses erreurs, c'est une attitude très importante. D'ailleurs, on est dans l'esprit que le perfectionnisme n'existe pas. On adore se perfectionner. La vie est un apprentissage permanent. On adore dire ça. Mais le monde parfait n'existe pas. Ça rejoint à la notion de mujo, qui est l'éloge de l'impermanence. Rien n'est figé, tout a un début et une fin, et c'est une notion du monde qui est plus fluide.
Alors on va en parler bien sûr, mais sur cette notion de collectif, du collectif et de l'individu, évidemment on a des questions. Une auditrice nous appelle de Lomé au Togo. Stéphanie, bonjour.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Vous avez une question justement par rapport au monde du travail, à la hiérarchisation et au rôle de chaque individu, je crois.
Oui, voilà. En fait, j'ai toujours entendu dire que dans le monde du travail, justement, il y avait une très forte hiérarchisation, notamment dans les tâches, que chaque personne avait un rôle à jouer et devait vraiment se tenir au rôle et à la tâche qui lui était assignée. Et donc, je me demandais un peu dans ce contexte, comment est-ce qu'on pouvait imaginer évoluer ou satisfaire son ambition ? Et surtout, comment la jeunesse nippone se positionne par rapport à cet ordre établi ?
Alors, c'est une question très intéressante.
Merci, Stéphanie.
Parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression de cette rigidité dans les notions hiérarchiques. C'était d'ailleurs assez pertinent dans le monde des grandes entreprises. Vous savez, au Japon, depuis quelques années, les choses changent. Mais avant, on intégrait une entreprise. Et il n'y a pas de dichotomie vraiment entre le monde professionnel et le monde privé, comme il peut y avoir ici en Occident. Et donc, on peut passer beaucoup de temps avec des activités, pas périscolaires, mais péri-entreprise. C'est important de vivre ensemble et le travail est en quelque sorte considéré comme une manière de contribuer à l'avancement de la société ensemble. Ce n'est pas juste un moyen de gagner de l'argent et avoir des congés payés, aussi agréable qu'il puisse être. Et du coup, le rapport hiérarchique dans l'entreprise, c'était comme l'extension de l'université ou d'un club de sport. Il y a des liens qui se créent et on passe beaucoup de temps dans la même entreprise. Et donc, de l'extérieur, on a l'impression que les rapports n'évoluent pas. C'est en train de changer. J'en parle dans mon livre. Les jeunes d'aujourd'hui, comme partout dans le monde d'ailleurs, cherchent plus de sens. C'est la quête de sens. Hein. Entrer dans une grande entreprise pour contribuer à la société, ça ne suffit pas. On veut contribuer concrètement à la société. Il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui, du coup, vont faire le choix de ne pas intégrer les grandes maisons, les grandes entreprises, et qui vont essayer de lancer leur business pour lier les collectivités locales aux touristes urbains, etc.
Raphaël Languillon, au sel, Jun Fujiwara, tout à l'heure, l'évoquait, il y a aussi ce qu'on appelle le mujo, l'éloquence de l'impermanence, hein, que finalement, ce qui compte, c'est surtout l'instant présent, parce que le passé, le futur sont des instants plus fugaces. Comment vous expliqueriez, comment ça se traduit finalement dans la vie quotidienne et notamment dans l'aménagement des villes, de l'espace ?
Alors, c'est une question très vaste. Le mujo, c'est vraiment un concept difficile à manier parce qu'il est, il interroge beaucoup, beaucoup de dimensions spatiales, sociales, aussi également le rapport au temps, le rapport culturel au temps, etc., qui est un rapport cyclique qui épouse beaucoup les saisons. Au niveau de l'aménagement et de la construction des villes, on oppose souvent les villes japonaises et les villes européennes, en particulier par rapport à cette notion du mujo et à son corollaire qui est la notion de patrimoine. C'est-à-dire que les villes japonaises se renouvelleraient à un rythme beaucoup plus fréquent. Les villes japonaises seraient beaucoup plus impermanentes que les villes européennes. Et donc, du coup, dans ce rapport au patrimoine, le patrimoine urbain au Japon serait immatériel, là où en Occident il serait beaucoup plus matériel et axé du coup sur la matérialité et donc du coup la matière. Et donc on aurait Tokyo et des villes japonaises qui seraient l'archétype d'un urbanisme de forme, alors qu'en Europe on aurait un archétype d'urbanisme de matière ou de matérialité. Ce qui donne en fait dans la construction des villes quelque chose de beaucoup plus relationnel dans les villes japonaises qui sont fondées sur la forme et des urbanismes beaucoup plus situationnels, en particulier liés à la perspective avec les villes européennes qui sont fondées sur la matière et ce qui reste dans sa matérialité.
Vous parliez de l'importance des saisons, Jun Fujiwara, la floraison des cerisiers, c'est quelque chose qui est très connu dans le monde, mais vous racontez que les services météo annoncent la floraison région par région parce que à un moment donné, tout le monde va s'arrêter pour admirer vraiment cette floraison.
Alors, ça, c'est vraiment le sport national. Pas que les cerisiers, d'ailleurs, les érables rouges en automne. Il y a à chaque saison sa chasse à l'éphémère. Pourquoi ? Parce que ce côté maintenant ou jamais, c'est ça qui excite les Japonais. Hein. C'est pas parce que les cerisiers sont les plus belles fleurs du monde. Ils ne le sont pas, d'ailleurs. C'est parce qu'il faut saisir ce moment, maintenant, ici et maintenant, et si possible avec son entourage. On n'est pas seul en train de contempler la nature ensemble, et on en profite donc ensemble. Et ça nous donne vraiment cette impression tangible du miracle finalement d'être en vie à l'instant présent. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Hanami quand on parle des Japonais. Et je constate d'ailleurs qu'on le célèbre de plus en plus dans le monde entier.
Ouais. Ici et maintenant, en tout cas nous aussi, on est en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI. On essaye de décoder ces règles du savoir-vivre japonais. Le sujet, bien sûr, est immense. Et dans quelques instants, on accueillera le correspondant de France 24, Constantin Simon, qui vit à Tokyo. Ça sera juste après ce duo japonais, Yoasabi. Milliards de voisins en direct sur RFI aujourd'hui avec notre invité Jun Fujiwara. On décode les secrets du savoir-vivre nippon puisque c'est le titre de votre dernier livre publié aux éditions de L'Opportun avec les quatre grands piliers de la sagesse nippone. Et également pour nous éclairer, le géographe Raphaël Languillon-Ossel qui est en direct d'Osaka. Et puis nous sommes aussi en ligne avec Constantin Simon, correspondant à Tokyo pour France 24. Bonjour Constantin Simon.
Bonjour Emmanuel.
Avant d'être correspondant au Japon, je crois qu'il faut le préciser, vous étiez basé en Inde, un pays du chaos pour les Japonais. Alors comment vous vivez la zénitude japonaise ? Jun Fujiwara nous disait d'ailleurs que le concept de zen n'existe pas à proprement parler au Japon. Racontez-nous pour vous.
Oui, moi aussi, évidemment, arrivant du chaos, comme vous dites, indien, j'ai été surpris et d'abord conquis par cette sagesse nippone, cette zénitude. C'est vrai que quand on arrive dans cette métropole énorme qu'est Tokyo, on est quand même impressionné par l'organisation, par le calme qui règne. Mais c'est vrai que les années passant, j'ai appris à peut-être mieux connaître les Japonais et je ne suis pas si sûr que les Japonais soient spécialement zen, si vous voulez, parce qu'en fait, il y a une règle qui prime au Japon, et ça a été ma grande découverte, c'est qu'on ne montre pas vraiment ses sentiments. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le tatemae, le hone, c'est-à-dire une part qu'on montre et ce qu'on est vraiment, qu'on n'est pas censé montrer, si vous voulez. Donc je pense que les Japonais s'énervent, sont tendus au fond d'eux-mêmes, comme tout le monde, comme les Français, mais qu'ils ne le montrent pas forcément. Et c'est à mon avis une lecture parfois peut-être un peu erronée, ou en tout cas une impression que peuvent avoir beaucoup de touristes, et que j'ai eu moi-même en arrivant ici, de croire que c'était vraiment le royaume des relax, voilà, le temple de la zénitude. Les Japonais, peut-être à force de paraître zen, si vous voulez, le deviennent peut-être un peu. Ils sont certainement plus calmes que moi. Vous avez senti que j'étais plutôt du style un peu excité, et plus calme que les Indiens, c'est certain. Mais voilà, ils sont quand même, si vous voulez, je trouve, j'aime pas généraliser, mais tout de même quand même prisonniers d'énormément de règles. Et il y a tellement de codes que comme l'expliquait le premier auditeur, toutes ces règles, si vous voulez, qui façonnent, construisent, vraiment régissent la vie sociale au Japon, eh bien font que c'est difficile qu'il y ait de la place pour l'improvisation, la capacité à réagir, à s'adapter à chaque situation. Et pour moi, c'est ça un peu le zen. C'est aussi une capacité à s'adapter, à garder son calme dans toutes les situations et à s'ouvrir un peu à l'autre.
Oui, alors en même temps, le mérite du Japon, c'est que les codes sont clairs, hein, et que donc si on les respecte, c'est ce que nous disait cet auditeur sénégalais, tout se passe bien. Le Japon, on ne l'a pas encore dit, mais c'est aussi un des pays où l'on se suicide le plus au monde. On a d'ailleurs un auditeur qui nous a envoyé un message qui nous dit « Moi, je trouve ça incroyable et incompréhensible que les Japonais se suicident alors qu'ils sont disciplinés, polis, sereins et sages. Ça me semble contradictoire. »
Eh bien, parce que précisément, il y a ce qu'ils montrent, l'apparence, et ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à supporter toutes ces règles. Alors, tous les suicides, c'est des affaires personnelles, hein, on va pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a 21 000 personnes qui se sont suicidées en 2020. Alors, c'est en augmentation par rapport à 2019. Hein, depuis la crise du Covid, il y a de plus en plus de suicides, notamment chez les femmes et les enfants. Le suicide était en baisse depuis 10 ans, mais c'est vrai que c'est une triste spécialité japonaise. Il y a beaucoup de tensions, et dans ce système régi avec des règles assez dures, eh bien, voilà, il y a des gens qui n'en peuvent plus.
Oui, mais au quotidien, ça peut donner, sans aller jusqu'au suicide, tout de même à des énervements palpables.
Alors, en apparence, pas vraiment, mais moi-même qui suis reporter et qui suis souvent dans des situations un peu de stress, si vous voulez, la caméra qui marche pas, ou le drone qui part dans le ciel, le programme, on est en retard, eh bien régulièrement, je vois qu'en fait, les Japonais tentent de garder leur calme, mais sont pas si zen que ça, parce que dès que ça suit pas les règles, le plan, finalement, j'en parlais avec mon fixeur qui me racontait qu'il avait fait mon fixeur donc japonais, qui me racontait qu'il avait fait un salon, organisé un salon en France, et que les gens de la partie française étaient tout le temps en retard, mais finalement, ils géraient très bien ce retard. Alors que les Japonais, qui étaient assez calmes, dès qu'il y avait un petit problème, ils avaient plus de difficultés à le gérer.
Ouais. Vous avez un autre exemple, c'est la crèche au Japon, où sont gardés les bébés.
Oui, alors quand vous arrivez dans une crèche japonaise, vous êtes vraiment impressionné par la gentillesse, le calme des dames, et là, il n'y avait pas d'hommes, mais des dames qui travaillent dans cette crèche. Vous dites, voilà, quelle maîtrise. Alors, je dis pas qu'en France, c'est la foire d'empoigne, hein, mais voilà, j'étais assez impressionné, si vous voulez, par cette gentillesse. Et puis, c'est vrai que plus j'ai appris à connaître les règles, à comprendre, plus je me suis dit qu'en fait, c'était pas vraiment une sagesse philosophique, c'était simplement parce qu'elle suivait un ensemble de règles très strictes et qu'il y avait très peu de place pour l'improvisation. Les habits des enfants doivent être étiquetés, même brodés sur les habits. Et ce sont les mamans qui doivent amener leurs enfants. Les nounous, c'est très mal vu. Enfin, y a finalement assez peu de place pour la différence. Moi, c'est mon sentiment. Et voilà, c'est autre chose. On a parfois une image un petit peu cliché, si vous voulez, des Japonais délicat, stoïque, philosophe. Pour le cliché, ça serait même qu'il ferait de la méditation ou des cérémonies relaxantes au thé. Eh ben, c'est pas tout à fait ma vision. Voilà, c'est comme le yoga et les Indiens. Les Indiens ne font pas tellement de yoga. Les Indiens ne sont pas tous des Gandhi, et les Japonais, à mon avis, ne font pas plus de méditation que nous.
Et pas si zen que ça. Merci à vous, Constantin Simon, d'avoir été en direct avec nous de Tokyo, Jun Fujiwara.
Mais je vous assure, je ne fais pas de yoga, je fais pas de méditation, je fais pas de respiration non plus.
Et les Japonais ne sont pas tous des moines zen, c'est sûr, c'est normal.
Non, mais la question qu'il pose qui est intéressante. Quelle place pour la différence au Japon? D'ailleurs, vous-même qui vivez en France depuis 20 ans, comment vous êtes perçue par votre pays d'origine aujourd'hui?
Dès que je rentre au Japon, je suis japonaise, j'ai aucun problème. Mais c'est sûr qu'au Japon, il y a des exclus, des marginaux, il y a des suicides, même si je pense que ce n'est pas le premier au monde quand on parle de nombre de suicides. Et d'ailleurs, quand on pense que dans les pays en guerre ou en détresse, il n'y a pas de suicides, je ne sais pas moi ce que ce taux parle. Et... on a aussi, on en parle moins, mais au Japon, des manières de tisser des liens et de se défouler, si vous voulez. On n'est pas tous tout le temps en train de méditer, ça c'est sûr. Et ça, comme disait Constantin, il y a le politiquement correct ou le socialement correct qui s'exprime en public. Et il y a aussi des manières, quand on est entre nous, ça peut être entre collègues, oui, entre amis. Il faut d'abord entrer dans ce cercle intime pour entendre le roné,
c'est ça. Ce qu'on pense vraiment,
et là,
ce qu'on est soi-même.
Bien sûr que les Japonais adorent le gossip, on adore critiquer les autres aussi. Tout ça, ça va sortir aussi. C'est souvent autour d'une soirée bien arrosée. On passe beaucoup de temps dans les restaurants. Ce n'est pas le métro boulot dodo au Japon, c'est on sort après le boulot. Ce n'est pas un hasard si c'est une ville avec un nombre... important de restaurants.
C'est une des villes au monde où il y a le plus
exactement
de restaurants.
Donc, on a aussi une manière à nous de se défouler.
Raphaël Languillon-Haussel, concernant ce droit à la différence, l'alcoolisme, par exemple, serait quelque chose au Japon qui serait plus visible, plus perceptible, moins caché qu'en France?
Oui, effectivement. Alors, pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, je pense distinguer deux choses. Il faut distinguer d'une part les affects, et là, ils sont quasiment universellement perçu par n'importe quel être humain sur la planète. Et puis, il y a les comportements qui correspondent en fait à la gestion culturelle des affects, la gestion culturelle et individuelle des affects. Et donc, c'est dans les comportements que se trouve la spécificité culturelle japonaise. Et donc, par exemple, le japonais comme le français ou la japonaise comme la française ressent du stress, ressent de la colère, ressent de l'aigreur, de la jalousie, du bien-être, de l'amour, etc. Juste les moments et les espaces dans lesquels s'expriment ces affects sont médiés par la culture et donc du coup sont différents. Si je prends un exemple, le karaoké va être un espace de libération des Japonais et des Japonaises, là où les Français vont apparaître comme étant plus, incertains ou...
Oui, on est plus mal à l'aise.
Timides, parce que... Voilà, mal à l'aise, parce que prendre un micro et chanter devant des gens, culturellement, en France, ça ne passe pas tout le temps, ou en tout cas pas avec n'importe qui. Et donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui correspond à des espaces et des temporalités différentes d'expression culturelle, d'affect commun.
Jun Fujiwara, vous avez découvert à l'âge de 9 ans, parce que vous avez fréquenté plusieurs types d'écoles, notamment anglo-saxonnes, à 9 ans, vous intégrez une école élémentaire purement japonaise, et là, vous découvrez qu'on fait le ménage à l'école après la journée de classe.
Effectivement, dans toutes les écoles élémentaires au Japon, les enfants vont s'occuper de nettoyer leur classe. Alors, ça veut dire qu'on fait plus attention à ne pas jeter de la poubelle partout. On doit carrément récurer le plancher avec des torchons humides. C'est très dur comme
ça
travail.
Ça se fait encore aujourd'hui,
surtout encore aujourd'hui. On apprend à s'occuper nous-mêmes de nos salissures, de nos saletés, nos tâches. Et ça c'est vraiment quelque chose de très culturel au Japon. Ça remonte à très loin avec la pensée shintoïste, qui est la religion...
L'une des deux religions principales avec le bouddhisme.
D'ailleurs, ce n'est pas tellement une religion pour les Japonais. C'est des coutumes, c'est une tradition, c'est un état de pensée, parce qu'il n'y a pas de dogme ni école shintoïste. Et dans cette pensée, on pense que l'âme est pure à la base, il n'y a pas de péché inné, etc. Mais on peut accumuler des saletés dans la vie. Donc il faut absolument chasser ces saletés, que ce soit physique ou métaphysique. Et d'où l'hygiène au Japon, la passion aussi pour l'hygiène. Et c'est une affaire collective aussi, parce que tout seul, on ne peut pas s'en occuper. Et c'est pour ça que dès l'école primaire, on va apprendre à nettoyer aussi sa classe.
Ouais, vous rappelez aussi que le monde entier est souvent surpris lorsqu'il y a des matchs de foot, hein, les supporters, après leur passage, y compris lorsqu'ils ne sont dans un autre pays, hein, à l'international. Évidemment, impensable de porter des chaussures à l'intérieur d'une maison, y compris quand on est un invité qui arrive de l'extérieur. Et vous le disiez, nettoyer pour soi, mais par respect aussi pour les autres. Raphaël Languillon-Haussel, on arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais aussi qu'on parle, ça concerne la maison, ça concerne l'habitat, mais aussi les villes. Que signifie ce concept d'apprivoiser le vide ?
Effectivement. Alors, le Japon, c'est un pays de seuil. C'est un pays où, en fait, on va passer de seuil en seuil. Et le seuil ultime, en fait, c'est l'intérieur de la maison. Et on appelle ça oku, qui donne ensuite okusan. Okusan, c'est la femme, mais dans la tradition japonaise, c'est-à-dire la personne de l'intérieur. Par rapport à la personne de l'extérieur, qui serait plutôt l'homme dans la façon dont les Japonais et les Japonaises traditionnellement se partagent l'espace. Pour revenir à votre question, cette culture du seuil a donné lieu à une valeur spécifique des espaces et en particulier des espacements. Et ça, je pense que ça c'est en lien également avec ce que Jun Fujiwara a bien montré dans son ouvrage et dans ses explications, c'est-à-dire la façon dont les sujets sont espacés entre eux et comment est-ce que cet espacement en fait permet d'affirmer le sujet, c'est-à-dire les individualités. Elle a parlé effectivement du décentrement que les Japonais et les Japonaises ont par rapport à leur interlocuteur pour pouvoir le mettre en valeur et réaliser une sorte de communion momentanée, collective entre moi et l'autre et réaliser en même temps du coup mon humanité. Ce qui est intéressant, c'est que le terme être humain en japonais, ça se dit ningen. Nin, c'est l'individu et gen, c'est l'espacement, c'est le ma. Et le caractère du ma, c'est un portail de part et gauche, un peu comme un portail de saloon, et puis le soleil qui apparaît dans l'espacement entre les deux volets du portail de saloon. Et ça, c'est le ma, c'est l'espacement, et donc le ningen, l'individu plus l'espacement, c'est la façon dont c'est le contact à l'autre qui réalise ma propre humanité et me permet d'être un sujet en moi. Et ça, on le retrouve également en urbanisme, où en fait, c'est les espacements entre les bâtiments, donc les espaces vides, mais néanmoins remplis d'une force symbolique et culturelle forte, qui va donner leur importance au bâtiment. Et l'espacement, le vide chargé de symbolique le plus fort du Japon, c'est le palais impérial dans le centre de Tokyo, qui se trouve être la zone la moins construite de Tokyo, oui. Mais qui donne son sens à l'ensemble, puisque c'est là où se trouve le cœur du pouvoir symbolique et religieux, c'est-à-dire l'empereur.
Alors, il y aura évidemment beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres questions à vous poser hein, sur ce savoir-vivre nippon, tant le sujet est vaste, et j'ai bien conscience qu'on est extrêmement partiel. Peut-être une dernière question à l'un et l'autre. Quel est le faux pas le plus courant que vous observez de la part des non-japonais qui sont occidentaux, venus d'un autre continent ? Raphaël Languillon-Haussel, en quelques mots.
Alors moi, c'est l'affirmation du sujet. En particulier, quand on parle, les étrangers qui arrivent et qui parlent assez mal le japonais, ils vont dire tout le temps « watashi wa », et puis ils vont dire « je viens de France, je viens, etc. etc. », c'est-à-dire « je viens de ». Alors que normalement, il faut éluder le sujet et directement commencer avec le verbe.
Et pour vous, Jun Fujiwara ?
Je rejoins Raphaël sur ce sujet. C'est sûr que dans l'art de communiquer, on dit rarement le mot « je » en japonais. Et donc, moi, je viens de, je suis extraordinaire, je suis originale, ça passe assez mal au début.
Ouais. Et vous pensez à un autre geste aussi, peut-être, dans la façon de se comporter, pas seulement la façon de parler ?
Le contact physique. Au Japon, on ne se serre pas la main, on ne se fait pas la bise.
Voilà, tous les gestes barrières sont déjà en place
donc,
culturellement.
On se fait plutôt la courbette. C'est pas anodin d'ailleurs, parce que baisser sa tête devant quelqu'un, c'est un geste qu'on ne fait pas souvent ici. C'est un geste de déférence ici. Au Japon, on fait la courbette tout le temps pour se saluer dans la journée. Donc le contact physique immédiat est à éviter aussi.
D'ailleurs, vous le dites, le service client dans une entreprise au Japon, ce n'est pas un geste commercial, c'est une philosophie. Voilà, ça sera peut-être la conclusion, en tout cas du moins pour aujourd'hui, sur ce savoir-vivre japonais. Merci à tous les deux. Jun Fujiwara, les secrets du savoir-vivre nippon à découvrir absolument C'est publié tout récemment aux éditions de L'Opportun. Et Raphaël Languillon-Haussel, spécialiste du Japon, vous avez publié Les Japonais aux éditions Atelier Henri Dougier en 2018. Merci d'avoir été en direct avec nous d'Osaka. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous
de m'avoir invité.
Dans quelques instants, ce sera le journal. Juste après, Daoko, originaire de Tokyo, 24 ans. Il s'est fait remarquer en débutant alors qu'elle n'était que lycéenne. Demain, 7 milliards de voisins, la très grande taille au féminin. Asperges, perches, girafes, voilà quelques-uns des surnoms avec lesquels grandissent les jeunes filles très grandes. Rejet, moquerie, complexe, tel est le quotidien dans lequel les femmes trop grandes vivent finalement loin de l'image des mannequins. En France, 2 à 3% des femmes mesurent plus de 1m77. C'est une taille hors norme, compte tenu de la taille moyenne des Françaises, 1m65. Alors comment assumer ces centimètres quand on fait face aux stigmatisations? Quelles situations aussi sont particulièrement problématiques? Vous aurez bien sûr la parole, les voisines et les voisins.
Milliards de voisins, c'est fini.
Oh non.